sont pas des terroristes divergence numérique numéro 12 de cette saison 8 ou le 92e épisode donc depuis le début. Une divergence numérique, c'est votre émission sur le libre. Et plus exactement, donc dans cette 12e émission de cette année, nous parlerons de l'association Libre Accès qui est soutenue par plusieurs chercheurs et artistes qui commencent un travail ayant pour objet d'éradiquer des expressions sémantiques mensongères. Au programme de cette divergence numérique, la revue de presse de l'April qui est l'association pour la défense du logiciel libre, april.org, donc de cette semaine 50. Et puis nous commencerons donc en première partie la guerre des biens communs, donc qui a commencé et donc avec la défense des libertés publiques et de la loi Lopsi. C'est une ce sera un extrait d'une table ronde. Et puis en deuxième partie, ce sera la préservation des biens communs et de la loi ACTA, toujours une table ronde qui était organisée par l'association Libre Accès à Paris. Notre fil musical de cette semaine sera la dernière sortie de l'année 2010 pour le netlabel Fresh Pulp, netlabel orléanais, avec l'italien Zinga qui nous vient de Capoeira en Italie. Zinga qui aime les basses et qui nous le fait savoir avec ce Dub Power IP, première sortie numérique pour lui. 5 titres entre Electrodub et Dubstep, bien gras et méchant, gros featuring également sur Ganja Anthem avec Toll et Skyny de Norvège ainsi que Ranking Theo d'Italie. C'est évidemment de la musique libre, mais on va tout de suite commencer par vos nouvelles du front.
Les nouvelles du front.
Nouvelles du front avec la revue de presse de l'April, april.org, pour cette semaine 50 en la personne d'Emmanuel Charpentier et de Luc Fievier.
Bonjour Manu.
Bonjour Luc et bonjour Divergence.
Oui, bah bonjour Divergence, donc c'est la revue de presse de l'April, semaine 50 de l'année 2010. Donc au sommaire aujourd'hui, donc le code de transparence, guerre des géants, donc les nouvelles du front, donc le catalogue pressé par 01net, Banco pour Oracle, Comté en Belge et Lopsi, la politique du pire. Et on commence avec un article qui se nomme donc un article de IT Mag, entre la vision et la stratégie, la réalité, par Samir Tazayert. Donc c'est un article algérien et qui est un long article assez intéressant qui dresse un panorama assez complet de ce qui se fait dans de nombreux pays, notamment au Brésil, en Inde, les politiques liées à Internet, à l'informatique et ce genre de choses, et notamment avec le poids du logiciel libre dans ce domaine-là. Donc l'auteur dresse ce panorama avec l'idée de s'en servir comme exemple, et après ça il va comparer à ce qui se fait en Algérie.
Et notamment il va se plaindre du fait que l'Algérie s'est déjà ratée sur un plan d'informatisation des foyers, où il y a eu beaucoup d'argent, il semblerait, qui a été dépensé, et essentiellement cet argent est tombé dans les poches de Microsoft et de certaines entreprises qui fournissaient du matériel nec plus ultra, mais finalement sans utilité. Donc il fait le constat que ce plan, alors c'est oustratique ou quelque chose de ce type-là, et ce plan a complètement foiré. Et là, il constate qu'il y a un deuxième plan qui est en cours, qui est pour horizon 2013 et qui part sur les mêmes types de données. Donc c'est un peu rageant parce que justement, quand on compare avec d'autres pays, il n'y a pas de raison qu'un pays aussi grand que l'Algérie, sous tous les termes, ne puisse lui-même développer une vraie stratégie, notamment en s'orientant sur le logiciel libre. Donc qui lui faciliterait, qui lui permettrait d'avoir une vraie infrastructure, des logiciels développés, des compétences, ce serait un petit peu plus utile, ça permettrait d'avoir du contenu à mettre dans des ordinateurs qui ne seraient peut-être pas les NEC plus ultra cette fois-ci, il n'y a pas de raison après tout, mais qui serait au moins utile.
Ouais, il met l'accent sur tout ce qui serait service utile hein, et sérieux selon lui, donc des services d'administration par exemple, ou d'autres services de cet acabit qui permettraient d'avoir un développement d'Internet et de l'informatique et des services qui vont autour et d'avoir une vraie dynamique économique autour de ça. Donc point suivant, Lopsi, la politique du pire.
Article de Artesi, censure administrative de l'Internet sous couvert de protection de l'enfance, la rédaction. Donc qui reprend essentiellement ce qui s'est passé ces derniers temps sur Lopsi 2, le vote d'une loi Et cette loi, eh bien, c'est un petit peu une... Alors, justement, il y a eu des interrogations et l'April en a parlé. Et je cite, c'est une niaiserie technologique ou une volonté de contrôle accru.
Alors le principe, c'est qu'il y a un problème réel, hein, qui est celui de la pédophilie sur Internet. C'est assez marginal, mais ça existe, et derrière sont des véritables drames, donc c'est des choses qu'on ne peut pas négliger. Et la solution trouvée par rapport à ça consiste à faire du filtrage. Donc le filtrage, c'est en gros cacher ce site que je ne saurais voir. On a un très gros problème et on veut juste le cacher pour que personne ne puisse y avoir accès.
C'est encore pire que tout, hein. Alors moi, j'appelle même pas ça de la pédophilie, c'est le problème des pédonazis. Un problème très très vaste et vraiment global, mais... Là, c'est vraiment mettre en place un cache-sexe débile, parce que le problème, c'est pas que d'empêcher d'accéder au site, c'est que le site existe. Donc, il faut remonter à la source, taper sur les gens sur lesquels on doit taper. Il n'y a pas vraiment d'autres solutions efficaces, et il y a des associations anti-pédophilie qui ont regardé ça de près, et qui le disent eux-mêmes, le filtrage est vraiment débile. En l'occurrence, la Lopsy, eh bien, c'est ce qui est le plus inquiétant, ce n'est rien d'autre qu'un cheval de Troie. C'est donner le moyen au gouvernement et aux dirigeants de contrôler à leur loisir et de la manière dont ils le comprennent, de contrôler Internet.
Voilà, d'où l'expression pédonazi qui est utilisée parfois, c'est cette contraction entre les problèmes de pédophilie et les nazis aussi, donc on ne veut pas voir, et qui est la mise en ridicule de cet amalgame pour faire peur et pour justifier des lois liberticides est totalement inefficace par rapport à la problématique, ce qui est encore plus malheureux. Donc la quadrature du net s'exprime là-dessus, l'April soutient la position de la quadrature du net. Et malheureusement, les enfants qui souffrent ce genre de choses sont partis pour continuer à souffrir ce genre de choses. Rien ne sera fait pour les sortir de ces soucis.
Alors Luc, comptez en Belge.
Alors comptez en Belge, c'est un article de Data News. Plus d'argent fédéral dans l'ICT, mais moins d'informaticiens, par Stéphane Groman. Alors moi, c'est un article qui m'a un peu fait tiquer. Donc il parle en fait d'une étude qui a été menée dans les administrations belges et qui fait le tour d'horizon de tout ce qui est informatique et qui donc parle de la situation, constate qu'ils dépensent plus d'argent qu'avant, qu'ils ont moins d'informaticiens dans les services, qu'ils font appel aux sociétés extérieures. Et après ça, y a des choses que moi j'aime pas trop, alors on n'est pas tout à fait d'accord là-dessus. Alors d'une part, il y a des anglicismes à tour de bras, ce qui me semble. ICT, c'est l'éthique chez nous.
Mais c'est normal, ce ne sont pas des Français qui ont l'Académie française qui leur dirige leur orthographe, mon cher Luc.
Certes. Voilà. Alors après ça, il n'y a rien du point de vue du libre qui soit très engageant. Alors il y a cette idée quand même que dans 83,6% des cas, les administrations publiques fédérales belges donc, utilisent au moins une application open source, dit-il. On ne sait pas si elle est libre ou quoi. Et au-delà de la question de l'open source, comme ils disent, ils font très attention aux standards ouverts, qui pour eux sont super importants. D'une part, le fait qu'on utilise au moins une application libre, c'est franchement pas une nouveauté. Hein, dans toutes les entreprises, les administrations, c'est le cas, c'est quand même très répandu en soi, ça n'a rien de vraiment très exceptionnel aujourd'hui. Par ailleurs, les standards ouverts, un standard, c'est pas une norme. Donc il suffit de. Voilà, ils s'en vantent d'ailleurs d'avoir fait plier Microsoft. Donc on peut avoir des formats propriétaires, d'être dans ce genre de réseau et être très content.
Oui, mais moi je te suis pas. Hein. Certes, ils utilisent beaucoup de composants de langage qui semblent venir de Microsoft. TCO, c'est le coût total de propriété et autres standards ouverts. Mais bon, c'est pas très grave. Il y a 84% des administrations publiques belges qui utilisent du logiciel libre. Je suis pas sûr que ce soit pas le cas en France. Et en tout cas, ils encouragent et ils montrent que c'est possible d'aller dans cette direction-là. Ils en sont enchantés eux-mêmes. Ok, ils veulent pas opter aveuglément pour l'open source, c'est leur terme, mais en tout cas, ils avancent et peut-être que ce sera des bons exemples. Il faut prendre positivement, voyons.
Alors effectivement, on peut prendre positivement le fait qu'ils aient cette problématique d'interopérabilité, même s'ils ne le font pas très proprement. Mais par ailleurs, si tu parles d'ouvrir les yeux, ils disent quand même dans l'article que quand on utilise une application open source, il faut assurer le support soi-même. Donc je pense qu'il y a pas mal d'entreprises membres de l'April qui pourraient leur expliquer qu'ils sont prêts à leur vendre des prestations de support avec joie.
Alors, banco pour Oracle, Luc.
Alors donc, c'est un article de indexel.net, Java rien ne va plus, par Alain Bastide. Donc on en a parlé ces dernières semaines, donc du côté de Java il y a eu des gros divorces, la fondation Apache a quitté le projet, on en parlait la semaine dernière, et là il y a un peu du nouveau, en tout cas dans cet article, il y a un point de vue assez inquiétant et intéressant sur l'avenir de Java.
Oui, parce que certes, il y a beaucoup de mouvements. Apple qui s'en va, qui revient, IBM qui était parti, qui est revenu aussi, Apache qui s'en va, et là c'est définitif. Donc ça fait du changement chez les gens qui développent Java. Mais surtout, là, on nous laisse entendre que Java pourrait être propriétarisé, privatisé, je sais pas. En tout cas, devenir un logiciel non libre, ça c'est un peu moche parce qu'Oracle possède d'autres rubriques, d'autres machines virtuelles. Il y en a une qu'il contrôle qui vient de BEA. Et cette machine virtuelle, supposément, est très rapide, très, très puissante, utilise peu de mémoire. Et donc, on va voir. En tout cas, ils ont cette capacité de choisir entre une machine virtuelle existante qui est très bien, qui est libre, une autre machine virtuelle existante qui est moins bien, mais enfin, qui est bien techniquement, mais qui n'est pas bien éthiquement, qui est propriétaire. Et donc là, maintenant, on est un peu à la croisée des chemins. On va voir.
Alors, par rapport à Java, donc évidemment, un projet libre, qui est le code, quand il est sous GPL, on ne peut pas le ressortir. Par contre, on peut très bien décider que les nouvelles versions seront sous licence propriétaire. Alors, rien n'empêche de développer les versions antérieures. Mais comme ils ont refusé l'accès à la batterie de test, ben, les gens qui voudraient continuer les anciennes versions sous version libre ne seront plus dans le cadre du projet. Et donc, c'est une façon de dire, si vous voulez garder la version libre, vous stagnerez, vous n'aurez pas les nouvelles fonctionnalités.
Ou en tout cas, vous ne pourrez pas utiliser le terme Java. Ce que, par ailleurs, c'est ça qui s'est passé, on peut peut-être d'ailleurs en parler tout de suite. Eh bien, Google a développé Android et a développé une machine virtuelle qui n'est pas du Java, mais qui en a furieusement l'aspect. Mais bien, Oracle les attaque pour cause d'infraction à des brevets et du droit d'auteur. C'est l'autre article de la revue de presse, je nous lance dessus directement. Le Mag IT, rachat de Novell, Oracle, BMC et Apple aux côtés de Microsoft dans CPTN, de Cyril Chausson. Alors effectivement, je vais un peu trop vite. Là, il s'agit des brevets de Novell, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que dans l'eau, il y a Oracle. Donc, je ne sais pas si toi, ça t'évoque des choses intéressantes, mais en tout cas...
Oui, c'est le mystérieux consortium qui avait été évoqué lors du rachat de Novell. Et il s'avère que donc Microsoft, certes, oui, mais Apple également, et Oracle, et d'autres grosses boîtes qui se mettent toutes ensemble pour racheter Novell et les brevets correspondants. Probablement donc des manœuvres pour aller casser les pattes de Google et d'Android.
Alors, juste pour rajouter, il y a 882 brevets, donc les brevets de Novell, qui ne concernent pas... Unix, mais qui concerne l'écosystème open source. Enfin, en tout cas, voilà. La chose intéressante, c'est qu'on ne sait pas encore ce que couvrent ces brevets. Donc, c'est encore très mystérieux, très flou. On sait juste qui est derrière. Et effectivement, je pense que Google est en ligne de mire. Ils marchent trop bien. Ils ont ils vont gagner trop d'argent avec Android. Ça doit intéresser beaucoup de gens.
Donc le catalogue pressé par 01net, c'est le catalogue du libre produit par l'April. Donc une sorte de reprise, en tout cas une reprise du principe.
Alors ce que tu avais appelé un compendium, donc l'article 01net, c'est 24 logiciels gratuits et libres à télécharger, fait par la rédaction. Donc ils reprennent, il me semble, parmi les 26 logiciels libres qui avaient été présentés dans le catalogue libre, et eux-mêmes refont un panel où on peut consulter, aller de logiciel en logiciel, voir des copies d'écran, voir un bref descriptif. C'est intéressant, ça permet d'aller vite et bien de voir... C'est un résumé de 24 très bons logiciels libres qu'on vous recommande d'aller utiliser, d'aller voir.
Et une autre reprise d'un travail fait par l'April, donc c'est une affiche sur les logiciels libres, comment ça marche. Donc c'est dans les infostratège.com par Fabrice Molinaro. Donc il cite ce travail qui a été fait par le groupe Sensibilisation. Donc c'est un poster qui, en gros, reprend le cycle de développement idéal d'un logiciel libre. Voilà, donc ça fait plaisir d'être pris. Donc le code de transparence.
Alors des choses très intéressantes, pour une fois sur Wikileaks, hein, car Wikileaks ne concerne pas toujours du logiciel libre, mais là en l'occurrence il y a au minimum des rapports. Donc un article de OVNI, Wikileaks qui règne par le code tombera par le code, de Louise de Miranda, et un article de Écran, Wikileaks, une tempête de papier pour aujourd'hui, qui, donc dans les deux cas, qui rapproche Wikileaks et le logiciel libre de manière des plus intéressantes.
Alors pour le premier, Wikileaks qui règne par le code tombera par le code, c'est un peu plus que le logiciel libre, c'est disons le mouvement hacker dans lequel le logiciel libre occupe une part non négligeable. Et donc voilà, l'idée de la culture hacker, c'est des personnes qui vont prendre en main leur environnement, développer, créer, détourner et s'approprier les éléments qui sont tout autour d'eux. Et avec cette idée et ce lien avec l'informatique, où dans l'informatique libre notamment, on a cette capacité à faire sien le code et à le modifier, à le distribuer, à l'utiliser, à l'étudier, les quatre libertés du logiciel libre. Et cet auteur, qui est romancier par ailleurs, explique que l'être humain est un animal protocolaire, dit-il, et donc les protocoles sont des règles, et que finalement les hackers, au travers de Wikileaks est l'exemple de hackers parvenant, enfin, à poussant le principe du logiciel libre jusque dans les règles sociales, c'est-à-dire ce qu'il applique au code de l'informatique, il va l'appliquer aux codes sociaux, et que c'est en train de créer un mouvement de fond qui remet en cause les équilibres de pouvoir conventionnels. Donc le point de vue est assez profond, et vaut vraiment le détour et la lecture. C'est un article qui était paru dans Libération initialement. Et donc deuxième point, un article d'écran.fr, Wikileaks, une tempête de papier pour aujourd'hui, donc par Camille Gévaudan. Donc Manu, c'est quoi ?
Eh bien, essentiellement, ça reprend et ça rediscute du DDoS qui est en train de se passer en ce moment. Alors le DDoS, juste pour donner un peu, c'est Distributed Denial of Service, un déni de service tout simplement, et c'est des gens qui se connectent sur des sites qui n'ont pas été très gentils avec Wikileaks et qui en faisant ça de manière très nombreuse, essayent de faire tomber les sites. Et là, Richard Stallman, donc le père du logiciel libre, explique, car il en a parlé dans d'autres contextes, que ça correspond tout simplement à l'équivalent d'une manifestation. C'est de la même manière que des gens pourraient aller dans un magasin en nombre, rentrer et sortir du magasin et donc empêcher le magasin de fonctionner. Et bien là, il y a des hackers, soi-disant hackers, parce que ça ne nécessite pas forcément de compétences, qui font la même chose avec des gros sites anti-Wikileaks. Donc c'est de plus intéressant, ça remet à plat la problématique.
Voilà, et ça montre que ce ne sont pas de vilains pirates comme tels qu'ils sont traités. Voilà. Eh bien, c'est fini. Merci Manu.
Et merci Luc, et merci à Divergence FM.
Merci à Luc Fievier et Emmanuel Charpentier pour cette revue de presse de l'April, april.org. Donc, vous pouvez retrouver sur ce site-là, et puis aussi sur le site dogmazic.net, April. On va s'accorder une petite pause musicale dans cette divergence numérique sur les ondes du 93.9 de Divergence FM à Montpellier, puis du 103.3, 104.1 pour Radio Escapade, vous qui nous écoutez là-bas, ainsi que pour ceux qui nous écoutent sur le net, divergence-fm.org. Alors, petite pause musicale avec la dernière sortie de l'année 2010 pour le net label Fresh Pulp, donc avec l'italien Zynga, qui nous vient de Capua en Italie. Donc Zynga qui aime les basses et donc qui nous le fait savoir avec un dub power IP, première sortie numérique pour lui, 5 titres entre dub électro et dubstep bien gras et méchant. On va écouter tout de suite Rub Dubstep, donc le morceau qui ouvre cet album, c'est la Fresh Pulp Release 054, fresh-pulp.net sur Divergence Numérique, et c'est en licence Creative Commons by NCSA 2.0.
Quicker!
Rub Dubstep par l'artiste Zynga sur le label Fresh Pulp en licence Creative Commons by NCSA 2.0. Donc nous allons entamer notre première partie avec la bière des gains, des biens communs qui a commencé. Donc le 14 novembre s'est tenue au ministère de la crise du logement une rencontre autour de la loi LOPCI et du traité ACTA. Garantir les libertés publiques pour préserver les biens communs, organisé par l'association Libre Accès entre les mouvements des faucheurs volontaires, Act Up Paris, du logiciel libre, de l'art libre, du mal logement, pour lutter ensemble contre la loi LOPCI et le traité ACTA. Richard Stallman a déclaré au cours de cette rencontre « Ces mêmes entreprises cherchent à imposer partout dans le monde des lois cruelles, immorales pour interdire la coopération entre les gens et ces attaques sont la stratégie de la guerre contre partagée, la guerre contre la coopération sociale, contre la solidarité. Donc nous allons écouter Sandrine Bélier, Europe Écologie Les Verts, qui a fait part donc de son inquiétude de voir le Parlement européen devenir une chambre d'enregistrement, appelant les citoyens à contacter leurs eurodéputés pour agir contre ACTA et peser sur des questions aussi fondamentales que celles contenues dans le traité ACTA qui touchent aux libertés publiques, à l'accès Internet, à l'accès aux médicaments, à la brevetabilité du vivant ou à la protection des indications géographiques. Une rencontre donc est organisée en deux tables rondes. Donc cette première table ronde de la défense des libertés publiques et de la loi LOPCI pour échanger sur les dangers de cette loi, donc avec Jean-Baptiste Hérault de l'association Droit au Logement, Mathieu Pascani, coprésident et de Libre Accès et de In Libro Veritas, Fabrice Eppelboin de Rib White Web, Michel Sidbon, collectif contre la xénophobie, Jérôme Torel de Privacy France, Jérémy Zimmermann, cofondateur de la Quadrature du Net, et Lauriane, pardon, pas de loup du réseau InterSquat. On écoute sur Divergence Numérique.
Ok, on va commencer. Merci à tous d'être venus. Symboliquement, pourquoi on est ici ? On est ici par rapport au débat ou dans les luttes sociales qu'on mène, ce lieu qui appartenait à une banque, en face du Ballet Prognard, où il y avait une salle des marchés, était un bâtiment qui était inoccupé depuis plusieurs années. Et suite à des luttes qui ont été menées par MACAC, Droit au Logement et Jeudi Noir, et ben ça a été racheté par la ville de Paris. Et dans quelques temps, ça sera des HLM pour que des personnes puissent avoir accès à un logement dans des conditions à Paris décentes. Lieu symbolique également, parce que c'est ici que les faucheurs volontaires ont fait leur grève de la faim à une époque pour s'opposer à une loi sur les OGM. Donc c'est un lieu symbolique des luttes, donc le lieu est petit. Lieu au même temps où des mamans se sont battues pour le relogement avec dans des conditions assez rudes il y a quelques temps. Et on est confronté à une privatisation de nos pensées et en même temps avec des lois sécuritaires qui arrivent. C'était important de faire le point, c'était important qu'il y ait un échange. Et voilà, maintenant je me tais, il y a plusieurs réseaux. Je vais laisser la parole à Jean-Baptiste pour qu'on comprenne. Et peut-être qu'avant, on peut faire rapidement un tour de table pour que tout le monde puisse identifier qui est qui. Je passe un des micros à Jérémy Zimmermann.
Merci Jérémy. Donc je suis Jérémy Zimmermann, je suis cofondateur et porte-parole de La Quadrature du Net. La Quadrature du Net, c'est une organisation qui défend les libertés fondamentales dans l'environnement numérique. On est une sorte de caisse à outils citoyenne pour permettre à chacun de comprendre les processus législatifs qui mettent en danger les libertés fondamentales sur Internet et participer dans ces processus, mettre un pied dans la porte citoyen. Le Figaro nous appelait fer de lance de l'opposition à la loi Hadopi, un titre dont je suis tout à fait fier. Et donc on s'oppose à la LOPSI, vous allez en entendre parler plus tard, au sujet de l'article 4 sur le filtrage notamment.
Bonjour, je suis Fabrice Epelmoin, je suis l'éditeur de Read Write Web et je m'occupe aussi de Webcastory qui fait des web TV, dont celle qui est présente juste là. Et on fait partie avec des blogs comme Numérama, enfin ce qu'on peut appeler Numérama, un blog, je ne sais pas, ou PC Impact, des médias qui ont analysé, décortiqué, évidemment lutté contre Hadopi et LOPSI, avec quelques succès quand même à notre actif. Tout ça évidemment dans un système de collaboration finalement improvisé, mais qui marchait assez bien avec évidemment des gens comme La Quadrature du Net. Et sur la LOPSI qui nous réunit ce soir, on s'est, nous, très particulièrement focalisé sur l'article 4, celui qui concerne le filtrage, et dans une moindre mesure sur, alors on ne sait pas si c'était le 14 ou le 17, celui qui remet en place un cadre sur la vidéosurveillance et qui change radicalement tout un tas de perspectives dans l'utilisation des technologies à l'avenir dont on va parler.
Bonsoir, moi je suis Jérôme, je représente Privacy France qui organise les Big Brother Awards depuis 10 ans. Donc nous, c'est vrai que les lois sécuritaires, on les voit un peu passer presque comme des oiseaux migrateurs tous les ans. Je pense qu'on peut en compter en gros entre 25 et 30 si on englobe l'immigration, sécurité publique, sécurité intérieure, mais aussi toutes les lois qui portent atteinte aux droits sociaux comme les circulations, les libertés de circulation, d'installation, etc. Donc j'aborderai quelques aspects de la LOPSI, parce que c'est vrai que c'est encore une fois une loi fourre-tout. Il faut voir que c'est fait pour ça. Ce sont des textes qui sont faits essentiellement pour attirer les journalistes sur des points très précis, qui font beaucoup de buzz pendant de longues semaines. On ne parle que de ça, et ces buzz-là généralement s'éteignent, c'est-à-dire que l'amendement est retiré, etc. Et derrière, toute la loi est énorme, avec plein de dispositions qui sont assez cachées, passe à l'as. Donc c'est un peu la stratégie régulière d'épuiser aussi les gens comme nous qui sommes... on n'a pas que ça à faire toute la journée d'aller lire des textes de loi, surtout les débats aussi qui sont vachement intéressants. Donc c'est aussi une stratégie de l'épuisement, et donc essayer de voir comment on peut contourner tout ça. Voilà.
Bonjour à tous, je suis Mathieu Paschini, gérant et fondateur d'Inibro Veritas. Il n'y a que deux personnes qui ont amené des artistes, des hommes d'affaires, des spécialistes dans leur domaine au Phuket, c'est Nicolas Sarkozy et moi. J'en suis assez fier, pour l'exact contraire de ce que lui avait fait à l'époque. On s'était dit, à l'époque d'Hadopi, tiens, on va faire exactement comme lui, parce qu'il n'y a pas de raison, quelque Sarkozy qui a le droit de s'offrir le Phuket. Donc on s'est offert le Phuket avec le livre qui s'appelle « La bataille Hadopi », qui est sorti donc, dans ma maison d'édition, et dont l'objectif était de démontrer que la loi Hadopi est une loi idiote, pour ne pas dire inique, et qui va nous coûter beaucoup d'argent, évidemment. Il en va exactement de même aujourd'hui avec la LOPSI, qui est une loi qui a énormément de volets, dont un qui est évidemment une atteinte très profonde à la neutralité du web. Et je vous parlerai tout à l'heure plus spécifiquement d'un livre qui s'appelle « Confession d'un pédophile, l'impossible filtrage du web ». Et on comprendra pourquoi la loi LOPSI ne va pas éradiquer la pédophilie, la pédopornographie sur Internet, mais va au contraire lui donner toutes ses chances de pouvoir prospérer tranquillement et gagner beaucoup d'argent.
Bonjour, je m'appelle Lauriane Padeloup de l'Intersquat parisienne, intersquat.org. Voilà, je suis... L'Intersquat, c'est une plateforme qui réunit une vingtaine de lieux de squat essentiellement artistiques sur Paris et la Petite Couronne. Et nous luttons évidemment contre la LOPSI. Enfin, nous sommes signataires du communiqué qui s'est élevé contre l'article 32 ter de la LOPSI dont Babar va nous parler plus amplement. Voilà.
Oui, bonjour, je suis Michel Sidbon du collectif contre la xénophobie. Et je suis là, l'article 32 Terre a été une des choses qui nous a mobilisés. Le collectif contre la xénophobie est apparu cet été, en même temps que les campagnes racistes gouvernementales contre les tziganes. Et alors on a découvert ici même, d'ailleurs c'est dans cette pièce, il y a quelques mois, ou une semaine, je me rends plus compte le temps qui passe, là, ce 32 Terre A avec son amendement 404, si je me souviens bien, quand il passait au Sénat. Et ce droit d'expulsion expéditif, donc en 48 heures, de quiconque occupe un local sans bail ni droit établi, et 48 heures au lieu d'une procédure judiciaire sur décision du préfet au lieu de suite à un examen de la justice, c'est ça nous a motivé. Alors bon, il semblait que c'était un article opportuniste contre les tziganes. C'est-à-dire que dans une campagne raciste proclamée, mais il y a donc des dispositifs légaux, racistes, institués. Et ce n'est que un des multiples éléments qui nous réunit aujourd'hui, parce que l'autre chose qui fait que j'ai peu dormi cette nuit, c'est que je regardais l'Opsi là sur Internet, mais vraiment c'est le premier qui réussit à énumérer ce qu'il y a dans l'Opsi. À gagner un prix, je sais pas, c'est impossible, j'ai vu personne le faire. Ouais. J'ai pas vu un article capable de recenser tout ce qu'il y a dans cette loi. C'est très très impressionnant.
Peut-être qu'on peut justement essayer de le faire, parce que le temps est compté. Et donc l'idée, c'est peut-être de voir à un moment donné pourquoi l'association de droit au logement et l'Intersquad vont vous opposer à la loi LOPSI. Et si possible, je sais que ça va être difficile dans un temps court pour qu'on puisse voir aussi pourquoi la quadrature du net et qu'il y ait une compréhension, puis qu'on puisse avoir un échange et qu'on voit ce que tu voulais faire à un moment donné, Babar, c'est-à-dire l'idée à un moment donné de qu'est-ce qu'on fait vu que ça repasse en novembre. Voilà.
Bon, alors il faut que tu concluais un peu là-dessus, avant d'être interrompu. Là, l'OPSI, effectivement, a un florilège de mesures aussi répressives les unes que les autres et qui traduit une montée en puissance de l'État policier. Bon, donc, c'est dommage que le syndicat de la magistrature ne soit pas avec nous, parce qu'ils ont travaillé dessus, avec un collectif, alors ils ont un peu analysé la question. Nous, on a regardé rapidement les autres articles, parce que je vous avoue qu'on n'a pas forcément le temps, c'est pas notre métier de décortiquer les projets de loi, sauf ceux qui concernent le logement ou les actions qu'on a à mener. Alors, je vais vous donner quelques exemples, donc ça, l'article 2, vous allez en parler. Donc c'est lié évidemment à un renforcement de la répression sur le net, une atteinte aux libertés. On a l'article 10 qui est intéressant, puisque il crée des affichés pour les enquêtes criminelles, les enquêtes préliminaires ou de flagrance. Par exemple, quand on est soupçonné d'avoir commis un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publique. Bon, évidemment, c'est militant, vous en doutez. Nous, on a une lecture plutôt militante des choses, une atteinte aux personnes, aux biens, aux l'autorité de l'État. Bon, donc on a un fichier qui va être un nouveau fichier qui va être créé et qui a sans doute pour vocation de régulariser des fichiers déjà existants, comme on le voit à chaque fois. La vidéosurveillance qui se développe massivement. Bon, nous, on relève que ça va être un peu plus difficile d'ouvrir des portes pour squatter, mais également on pense que ces images seront utilisées aussi à l'occasion de manifestations. Après, tous usages, multiples, et qui touchent à la vie privée. Captation des données informatiques, donc ça je pense que vous allez pouvoir, vous avez vu cet article 23, qui facilite en fait la captation des données, l'entrée chez les gens pour récupérer les données, etc. Voilà. Mais plus même, c'est la perquisition au domicile ou là où se trouvent stockées les données.
Appliquée explicitement aux personnes qui apportent de l'aide au séjour irrégulier des sans-papiers en groupe, c'est-à-dire comme nous sommes un certain nombre ici, quiconque fait du soutien aux sans-papiers dans un cadre associatif, c'est une association criminelle désormais, susceptible de voir son ordinateur perquisitionné.
Notamment délit d'aide à l'entrée, à la circulation, au séjour irrégulier des étrangers. Quinquies A, donc, alors ça c'est plutôt, manifestation, si vous voulez, dans les conseils municipaux. Alors le fait d'entraver, le fait d'entraver d'une manière concertée à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté d'expression, du travail, nanana, Bon, alors évidemment, à l'aide de menaces, mais pas exclusivement. Hein, on suppose que de manière concertée à l'aide de menaces. Bon, il faudra étudier ça d'un peu plus près, mais ils vont commencer à sanctionner les petits raffus qui peuvent être faits dans des conseils municipaux, à droite ou à gauche, par des... 24 décis, le fait de troubler la tranquillité du voisinage. Alors là, on élargit, c'est par rapport à... Vous vous souvenez de la... Là, en gros, ils pénalisent l'occupation en réunion des espaces communs, des parkings souterrains, des toits, des immeubles collectifs d'habitation. Donc ça vise plutôt les jeunes dans les cités, mais ça peut être plus large. Il nous arrive, nous, de perturber la tranquillité du voisinage en allant occuper un bailleur social, par exemple. Le préfet de police, alors, extension, ça, c'est là qu'on voit un peu plus le côté état policier. Parce qu'en réalité, le problème aujourd'hui, c'est qu'on voit bien que les préfets ont perdu depuis juillet, je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais ont perdu toutes leurs compétences en matière de santé, urbanisme, équipement, logement, je sais pas quoi, éducation, tout ça. Tout ça s'est remonté au niveau régional. Les administrations, après, ont été centralisées au niveau régional. Et donc, il ne reste plus au niveau du préfet quasiment que ses compétences en matière de police, quoi. Hein. Bon, et donc voilà. Alors, il faut donner un peu plus de pouvoir au préfet. C'est dans ce cadre-là que s'institue, que se crée l'article 32 Terra, qui prévoit de virer tous les habitants. Alors, donc, le directeur de police municipale... Ah non, ça c'est autre chose. Attendez, voilà. Donc, le préfet de police intervient désormais à charge d'ordre public. Sur les trois départements périphériques à Paris. Hein. Donc on a un super préfet de police qui couvre en fait Paris et la petite couronne. C'était déjà un peu en place, mais là, je veux dire, c'est clair qu'il prend toutes les compétences. Alors, bon, on n'oublie pas d'en donner quand même à la police municipale. Donc le directeur de police municipale pourront devenir des agents de police judiciaire. Le 36B. Création de tribunaux à l'intérieur des zones de rétention ouvertes au public, ça c'est pour les sans-papiers, c'est-à-dire...
En visioconférence.
Voilà.
Même pas des tribunaux. Ah, c'est en visioconférence, le sans-papier sort pas de son centre de rétention et il est... Et puis après, c'est pas seulement pour les centres de rétention, c'est pour tous les procès. On n'est plus amené devant le juge, on le voit en visioconférence. Alors moi, je dis que de rien, je ne suis pas multirécidiviste, malheureusement, mais... J'ai pas été confronté. Mais évidemment, c'est la scène, c'est la rencontre directe avec le juge qui est un moment psychologique très très important dans le processus judiciaire. Et là, non, ça se passe par visioconférence.
Voilà, on imagine les conditions de travail des avocats aussi. Alors, parce que quand il y a 40 mecs à défendre, quand ils sont aux quatre coins de la région, c'est plus difficile, quoi. Hein. Alors, 37 bis, ok. 37 bis B, création d'agents assermentés de Pôle emploi. Alors ça, c'est pour faire des tresser des PV pour les chômeurs, hein, fraude au chômage. Alors, il crée aussi, parce que, donc, la suite, une réserve civile de la police nationale, intéressant, on peut avoir besoin de policiers en plus, comme ils partent à la retraite à 55 ans. Eh bien, voilà, donc ils auront 150 jours à fournir par an si nécessaire. Hein, et les volontaires, 90. Alors, retraité, 150 jours. Bon, alors, article 36, création d'un code de sécurité intérieure par ordonnance. Alors, ça, c'est très relou parce qu'on ne sait absolument pas ce qu'ils vont sortir. Bon, voilà. Et enfin, l'article visant les Roms, donc également, au-delà du 32 Terre A. L'exploitation de la vente à la sauvette est interdite. Donc là, ça vise aussi en règle générale les biffins, quoi. Je sais pas si vous voyez. Tous ceux qui vendent, les gens qui vendent comme ça, qui étalent leur couverture avec leurs petits objets. Bon, là, on a pénalisation avec création d'une amende et une sanction pénale également, donc prison.
Ouais, c'est 6 mois et 3750 d'amende.
Voilà. Et enfin, interdiction de payer en liquide pour achat de métaux ferreux et non ferreux au-delà d'un seuil fixé par la loi.
Vous êtes toujours sur Divergence Numérique, sur Divergence FM 93.9 à Montpellier, puis sur Radio Escapade 103.3, 104.1. On va s'accorder une petite pause musicale avec notre fil conducteur. qui est cette semaine Zinga, un artiste italien qui aime les basses et qui nous le fait savoir. C'est la dernière sortie de l'année 2010 pour le net label orléanais Fresh Pulp avec l'italien Zinga qui vient donc de Capua en Italie. Un album de power et on va écouter le deuxième morceau, Mechanicals, c'est sous licence Creative Commons by NC SA 2.0 sur Divergence Numérique. Mechanicals de l'artiste Zinga, extrait de l'album Dub Power ou de la Fresh Pulp Release numéro 54, fresh-pulp.net, toujours sur Divergence Numérique, Divergence FM 93.9 à Montpellier, puis sur le 103.3, 104.1 de Radio Escapade. Nous poursuivons cette divergence numérique sur la guerre des biens communs qui a commencé, une table ronde organisée par l'association Libre Accès, et on retrouve Jérémy Zimmermann de la Quadrature du Net.
Le gouvernement s'est lancé dans une opération de contrôle du net. Le président a ça chevillé au corps de vouloir réduire au silence moindre contre-pouvoir. On l'a vu depuis son élection. Et là, ce qui devient un petit peu terrifiant pour nous, et qu'on était habitué depuis un certain temps à voir un certain nombre d'intérêts économiques vouloir contrôler le net et donc conserver le contrôle qu'ils avaient acquis au fil du temps. On était habitué à ça avec les guignols du disque et du cinéma. Je vous refais pas l'envers, l'histoire de la DATSI, de la DOPI, non. On est en train de voir débarquer les gens des télécoms. Pardon, qui eux sont du genre un petit peu plus sérieux pour certains que les guignols du disque et du film, qui eux aussi ont un intérêt à contrôler les communications pour créer de nouveaux modèles économiques, pour faire du blé avec ce qui jusqu'à présent était qu'un accès au forfait. Et là on est en train de voir des intérêts politiques converger avec ces intérêts économiques de façon assez dérangeante pour là aussi aller vers un contrôle. Rester au pouvoir pour une classe politique qui est au pouvoir, c'est à peu près comme rester un acteur indispensable de la chaîne de la culture quand on est un producteur ou un éditeur de phonogrammes, par exemple. Et donc l'article 4 de la LOPCI, pour nous, c'est clairement une volonté politique de prendre le contrôle du net. L'article 4, mes collègues vont sans doute entrer plus dans le détail que moi, c'est le filtrage du net. Le filtrage du net, c'est ordonner aux opérateurs Internet de rendre inaccessible une certaine liste de sites, une liste noire qui n'est pas rendue publique, et de faire en sorte que leurs utilisateurs ne puissent plus accéder à ces sites. Donc, ce qui est intéressant de comprendre là, pardon, excusez-moi, c'est que on va mettre en œuvre ce dispositif au nom de la protection de l'enfance. Il s'agit ni plus ni moins d'une instrumentalisation de la protection de l'enfance pour mettre en œuvre ce dispositif répressif. Et comme on instrumentalise les peurs, évidemment ça repose sur l'ignorance. Ça repose sur l'ignorance de quelque chose qui est extrêmement technique, qui est voilà, Internet, le filtrage, la pédopornographie, comment ça marche. Et où on dit, bah écoutez, il y a des contenus pédopornographiques sur Internet, ça c'est odieux, tout le monde est d'accord avec ça. Il faut combattre la diffusion et le commerce des contenus pédopornographiques, il n'y a aucun problème avec ça, on est tous d'accord. Et on veut dire, ben on va, voilà, on va filtrer, on va bloquer les sites. Et ben là, je vous invite à tester autour de vous sur des gens de bonne foi qui vont dire, bah oui, d'accord. On va rendre ces contenus inaccessibles, alors que c'est des contenus odieux, bah oui, d'accord. Eh bien, vous prouvez à quel point ça repose sur l'ignorance et à quel point on a tous un rôle à jouer là-dessus. J'ai expliqué directement à des gens, des politiques et d'autres, que, attendez, quand on dit bloquer les sites, ça veut dire qu'on va demander aux opérateurs de mettre la main devant les yeux des gens qui regardent. Et comme ça, il n'y aura plus de problème. Mais en réalité, si on se décale un petit peu et qu'on arrive à voir quand même, on s'aperçoit que les contenus sont encore là. Ils sont encore sur Internet. Et les gens font « Ah bon ?» Ben oui, on bloque juste pour les gens qui accèdent. On n'enlève pas les contenus. Ils sont encore sur Internet. « Ah bon ?» Et les gens, en toute bonne foi, croient que bloquer les sites, ça veut dire enlever les contenus. Et c'est là qu'il faut leur expliquer que la seule solution, la vraie, c'est d'enlever les contenus si on voulait faire quelque chose contre la pédopornographie. Mais moi, justement, je ne vais pas rentrer dans les détails de la lutte contre la pédopornographie, parce que là, vraiment, on a une instrumentalisation des peurs pour faire passer un dispositif répressif, et c'est là-dessus qu'il faut enfoncer le clou. Si on veut avoir un objectif sur cette deuxième lecture de la LOPCI, sur cet aspect-là de l'article 4, on sait très bien que vu la majorité UMP écrasante et les votes qui se font le doigt sur la couture du pantalon, il y a assez peu de chances que quelque chose passe en surprise. Mais il faudrait arriver à impulser dans l'opinion publique ce même réflexe. Aujourd'hui, tout le monde sait que la DOPI, c'est pas pour protéger les artistes. Voilà. Mais il faudrait que les gens soient au courant que filtrer le net, c'est pas pour protéger les petits-enfants. C'est pour protéger une classe politique qui veut rester au pouvoir. Ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Aussi, on dit, ah oui, mais bon,
Le filtrage, c'est que pour la pédopornographie. Vous inquiétez pas, ça ira pas plus loin. Bon, bah, déjà, ça c'est fait. Il y a eu une inversion de calendrier parlementaire. Initialement, il devait y avoir d'abord la LOPSI avec le filtrage de la pédopornographie et ensuite les jeux en ligne. Suite à une inversion, donc, la loi sur les jeux en ligne a d'abord été votée. Donc, il y a déjà du filtrage pour autre chose que la pédopornographie. Et je vais peut-être conclure là-dessus pour passer la parole parce que j'avais dit que je serais bref et je ne l'ai pas été. Notre président a d'ores et déjà promis le filtrage aux industries du divertissement dans ses voeux à la culture devant un parterre de lobbyistes des industries du disque et du film, les mêmes qui ont poussé et qui ont obtenu des moignons de l'Adopi. Il leur a dit l'Adopi, si ça ne suffit pas, il faudra aller plus loin. Il faut pour cela dépolluer les réseaux et il faut pour cela expérimenter sans délai les dispositifs de filtrage. Donc, vous allez, je l'espère, appeler vos députés pour leur parler de la LOPSI. Quand vous allez parler de l'article 4, ils vont dire « Non, non, mais ne vous inquiétez pas, c'est que pour la pédopornographie. » Et vous allez pouvoir lui dire « Ouais, vous avez quand même un président de la République qui a promis ce truc-là aux abrutis du disque et du film. » Voilà.
Merci. Alors, si vous voulez en savoir plus sur cet article 4 et le filtrage, il y a un excellent livre qui a été publié chez aux excellentes éditions Libro Veritas, qui grosso modo tourne autour d'un texte qui est celui d'un directeur informatique de réseau pédophile, qui explique très précisément comment fonctionne le commerce de la pédopornographie sur ces 20 dernières années. Et la conclusion de tout ça, c'est que les pédophiles ne pouvaient pas rêver mieux que la LOPSI, au contraire, ça va les rendre extrêmement riches. Ça a été malheureusement, et c'est assez dérangeant, confirmé et applaudi dans tous les milieux pédophiles. Ce qui permet de voir son nom arriver dans des forums où, dans lesquels habituellement on n'est pas du tout cité. C'est très perturbant, mais en même temps ça valide vraiment le travail qu'on a fait. Moi je suis l'éditeur d'un blog, une revue qui s'appelle donc Read Wide Web et qui fait de la prospective technologique. C'est-à-dire que notre méthode de travail, c'est d'anticiper les conséquences qu'auront les technologies sur la société, la politique, l'économie, la communication. Et quand la LOPSI est arrivée, on avait un process de travail assez bien rodé. En général, on a la quadrature qui s'occupe de trouver de l'information d'ordre juridique, de faire des points avec ce qui se passe en Europe, ce qui se passe en France. Donc il y a un travail de fond qui est fait par la quadrature. Et puis ensuite, il y a tout un tas de gens qui, sur ce travail-là, greffent des analyses. Ça, c'est plutôt le travail des médias dont je fais partie. Nous, on s'est focalisé exclusivement sur l'article 4. Avec légèrement l'article, alors je ne sais plus si c'est le 14 ou le 17, sur la vidéosurveillance, parce que sur ces deux articles, il y a des enjeux fondamentaux de société qui n'ont absolument pas été soulevés, qui ont été choisis sans même que ça ait fait débat. Sur la vidéosurveillance, il serait bon d'aller au-delà du côté « il y a des caméras partout ». Ce n'est pas vraiment le problème. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on pourra faire demain avec des caméras. Aujourd'hui, on n'est absolument pas obligé de mettre des êtres humains derrière une caméra. On peut mettre un algorithme qui comprend ce qui se passe, et qui en fait une synthèse. Un algorithme est capable de repérer aujourd'hui, alors peut-être pas aujourd'hui, mais dans les 5 ans, on saura repérer un visage sur une vidéosurveillance, l'associer à une personne, à un numéro de sécurité sociale, on saura qu'il rentre dans une voiture, on saura lire son immatriculation, on saura repérer cette même voiture sur une autoroute, et donc on pourra pister des gens uniquement à partir de signaux de vidéocaméra placés un peu partout. C'est quand même un choix de société très conséquent, sachant qu'on a désormais des utilisations abusives dans le sens de, par exemple, ce que fait Estrosi à Nice, où on utilise la vidéosurveillance pour mettre des PV sur des stationnements gênants. Alors il faut savoir que le seul encadrement juridique, c'est qu'à un moment dans la chaîne de PV, il doit y avoir un agent assermenté. Mais rien ne dit que l'agent assermenté ne peut pas être un flic derrière un écran qui valide 10 000 PV dans la journée avec un ordinateur qui lui sort des images sur lesquelles il a déjà reconnu et lu le numéro d'immatriculation de la voiture, repérer une voiture qui est dans un stationnement gênant parce que ça, un ordinateur peut le faire, on n'a pas besoin d'être humain, prédessiner des indications sur une photo issue d'une vidéo de façon à ce que le policier puisse en une seconde dire « oui, c'est une infraction, je valide le fait que c'est une infraction » et avoir un policier qui passe sa journée à appuyer sur un bouton à raison d'un clic par seconde pour valider des contraventions. Alors ça, on peut le faire dès aujourd'hui à Nice avec des contraventions, dès demain partout en France, et après-demain, on peut attaquer n'importe quel type d'infraction sur ce modèle-là. On peut, par exemple, avoir un fichier des personnes sans papier, avoir des systèmes de reconnaissance automatique faciale, ça existe. Vous avez déjà plusieurs services sur Internet qui savent faire ça, et les repérer automatiquement dans la rue. Il y a déjà des algorithmes qui se branchent sur les caméras de la RATP, de surveillance, qui savent repérer un regroupement de jeunes gens noirs. parce que statistiquement, selon la RATP, c'est plus dangereux qu'autre chose. Donc on sait faire ça. On sait remplacer la plupart des opérations qui habituellement étaient faites par des opérateurs humains par des algorithmes. Et donc on démultiplie la capacité de traitement et on amène un truc qu'on connaît bien, Jérémy et moi, sur Internet, qui est la justice automatique. On va l'amener dans le monde réel. C'est-à-dire que la justice version Adopi, où on flash à tout bout de champ des gens avec des algorithmes en guise de policiers, on va l'avoir débarqué à travers cet article sur la vidéosurveillance de la Opsi dans la vraie vie. Alors sinon, l'autre point qui est l'article 4, le fameux article, et puis évidemment la justice automatique, c'est un enjeu de société, pour ceux qui n'auraient pas bien saisi, c'est un enjeu de société majeur, il serait bon d'en parler avant de le décider tel quel. Et avec la Opsi, oui, genre état de droit, est-ce qu'on continue à être dans un état de droit ou est-ce qu'on automatise une partie, Robocop, il y a beaucoup de science-fiction qui traite de ce sujet-là, notamment de la surveillance préventive. On peut aussi aller très facilement dans la surveillance préventive. Google sait faire une approche préventive des événements et sait prédire certains types d'événements parce qu'il a tellement de données à mâcher qu'il peut anticiper les données à venir. Donc, enjeu de société majeure. L'autre enjeu de société majeure, c'est le filtrage. Et c'est un enjeu de société majeure pour la France, plus que pour autre chose, parce que vous avez grosso modo trois attitudes dans le monde vis-à-vis de la liberté d'expression. Vous avez les dictatures, vous n'avez pas le droit de vous exprimer, ça est clair. Vous avez les États-Unis, où vous avez le droit de dire absolument n'importe quoi, et c'est reconnu par le premier amendement de la Constitution américaine. Et puis vous avez l'entre-deux, la France, où vous n'avez pas le droit de dire n'importe quoi. Vous avez des choses comme la loi Guesso qui vous empêche de dire tout un tas de choses. Vous avez légalement pas le droit de dire tout un tas de choses. Or, manque de peau, sur Internet, vous pouvez non seulement assez facilement obtenir un anonymat total, et c'est à la portée de tout le monde d'obtenir un anonymat relatif, et vous pouvez dire absolument n'importe quoi. Donc, on introduit dans un texte de loi la possibilité de filtrer des choses qui sont intolérables, parce qu'effectivement, la pédopornographie, c'est absolument intolérable, mais effectivement, on se demande en quoi on règle le problème en se masquant les yeux. Le jeu en ligne, c'est déjà beaucoup plus discutable. Et puis demain, on va avoir droit à quelque chose qui s'appelle le racisme, la xénophobie, où... Bah, selon la loi française, on n'a pas le droit. Donc, si vous voulez appliquer la loi française, vous avez entre 50 et 100 millions de pages web à censurer, c'est-à-dire à peu près autant qu'on censure aujourd'hui le gouvernement tunisien, pour être en conformité avec la loi française telle qu'elle existe aujourd'hui.
Merci à l'association Libre Accès pour cette table ronde que vous retrouvez sur leur site libreaccès.org. C'était la guerre des biens communs a commencé, toute l'intégralité donc sur leur site et puis sur les liens de l'émission de Divergence Numérique, divergence-fm.org, rubrique société, rubrique Divergence Numérique. Ainsi se referme cette Divergence Numérique numéro 92. Merci à vous qui nous écoutez sur le 93.9 de Divergence FM et puis sur le 103.3 de Radio Escapade. Vous retrouvez aussi le podcast sur l'article de l'émission. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ce sera sur le thème garantir le partage, la diffusion, la création des idées, toujours avec Libre Accès, toujours sur Divergence Numérique. Puis d'ici là, portez-vous bien, restez libre. Terrorist networks, terrorist states, terrorist networks, terrorist states.